Midi 30, 13h, le journal de la mi-journée sur Europe 1, c'est avec vous Fabienne Lemoyle. Bonjour Fabienne.
Bonjour Marlène, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. À la une, le débat sur les arrêtés anti-pesticides qui sèment la zizanie dans les campagnes. À quelle distance faut-il pulvériser ces produits? Il y aura donc bien une grande consultation à partir de lundi. Nous verrons sur quelle base avec Théo Manval. Grande rentrée pour La République En Marche à Bordeaux, avec en ligne de mire les municipales, nous serons sur place. Les avions d'Aigle Azur cloués au sol et près de 40 000 passagers qui se demandent comment ils vont être indemnisés. L'hommage à Salomé, 21 ans, tué par son ancien petit ami à Cagnes-sur-Mer. C'était la semaine dernière, hommage ce matin à Nice. À 12h45, je reçois Maître Henri Leclerc. Nous demanderons à ce ténor du barreau ce qu'il pense de l'arsenal judiciaire annoncé mardi pour lutter contre les violences conjugales. Le journal des sports avec les Bleus face à l'Albanie ce soir au Stade de France pour les éliminatoires de l'Euro 2020. La météo et la fraîcheur qui s'installent au nord. Et puis à 13h, on prolonge la tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Nous irons en plein cœur de la cité des Tarterets où l'on fait des fouilles archéologiques au pied des tours.
Europe 1.
C'est le débat qui sème la zizanie dans les campagnes depuis plusieurs semaines, le débat sur les arrêtés anti-pesticides. On vous en parlait cette semaine sur Europe 1 avec les tensions au sein même du gouvernement autour de cette question. À quelle distance faut-il laisser entre les habitations et les champs où l'on peut pulvériser ces produits? Les maires attendent que le gouvernement tranche. Et bien justement, Théo Manval, on a appris ce matin qu'une grande consultation va être lancée à partir de lundi. Alors ça va se faire sur quelle base, Théo?
Et bien sûr, celle des recommandations de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, c'est-à-dire interdiction des pesticides à moins de 5 à 10 mètres des maisons. 5 mètres pour ce qu'on appelle les cultures basses, comme les légumes. 10 pour les cultures hautes, comme les céréales. C'est très clairement la fourchette basse de ce qui est en débat depuis des semaines, très loin des 150 mètres que réclament les associations de défense de l'environnement et les nombreux maires qui ont pris des arrêtés, à commencer par celui de Langouette en Ille-et-Vilaine, Daniel QF.
C'est incroyable. J'ai cru d'abord à une fake news parce que le rapport de l'ANSES préconise ce qui est marqué sur les bidons déjà des fabricants, avec pour résultat ce qu'on connaît. Les gens dans ma commune ont fait des analyses dans lesquelles ils trouvent des taux de glyphosate très importants dans les urines des enfants notamment. Il faut une distance qui soit au moins de 150 mètres parce que là, on a constaté qu'à 150 mètres, on respirait quand même beaucoup moins de pesticides quand ils étaient épandus dans les champs.
Mais le ministère de l'Agriculture précise bien ce matin que rien n'est tranché. À ce stade, vous le disiez Fabienne, une consultation sera lancé lundi pour 3 semaines. Tous ceux qui le veulent pourront s'exprimer sur les sites des ministères de l'Agriculture, de l'Écologie et de la Santé à la manière du grand débat. Le gouvernement tranchera ensuite en octobre ou en novembre pour prendre un décret qui sera publié le 1er janvier 2020.
Théo Manval avec Marion Gauthier. On reviendra sur ce débat qui agite les campagnes dans Tout Terrain à partir de 13h avec un reportage en Bretagne d'où tout est parti. Et nous irons aussi dans l'Ain où un maire a décidé d'indemniser des agriculteurs. Direction maintenant Bordeaux, où l'on imagine que ce sujet n'est pas absent des discussions de La République En Marche. Le parti fait sa grande rentrée. Militants, ministres et cadres auront sûrement à cœur aussi d'afficher qu'ils sont en ordre de bataille pour les municipales, alors qu'on a vu pas mal de tiraillements pour désigner certains candidats. Et Stanislas Guérini, le patron du parti, a d'emblée affiché sa volonté de mieux écouter la base.
Ce campus des territoires, il doit ouvrir l'acte 2 de La République En Marche. Ce grand acte de décentralisation de notre mouvement à travers la rénovation des statuts, mettre plus de démocratie locale, rendre nos instances plus représentatives de celles et ceux qui font vivre le mouvement. Voilà les grands axes de la réforme de nos statuts. Et ils nous permettront de donner une assise à notre mouvement. Les racines de notre mouvement, ce seront demain les communes de France. C'est ça l'objectif que nous partageons ensemble.
Voilà, Stanislas Guérini applaudit donc à Bordeaux. Jean-Rémy Baudot, vous êtes sur place pour Europe 1. On voit que ces municipales, ce sera un vrai test pour le parti. Est-ce que les militants pensent que ce test sera réussi ?
Bonjour Fabienne. Eh bien, évidemment, les municipales, elles sont dans toutes les têtes. Les militants en parlent beaucoup. Le cas Villani à Paris tend d'ailleurs un peu tout le monde. Et il y a par ailleurs ce député qui, il y a quelques minutes, me disait qu'il pensait que le parti faisait une erreur en refusant de l'exclure. Car en fait, tout le monde sait ici que les villes compliquées vont se multiplier. Marseille, Lyon, Besançon, Tours, Metz, Annecy ou encore Montpellier. Et quand on parle avec des militants, sans surprise, en fait, on assiste à un truc très macroniste ici, ça s'appelle l'optimisme, l'idée que malgré les tensions, les choses vont rentrer dans l'ordre.
Ce n'est pas de la méthode Coué, c'est le bon sens et les projets qui nous permettra effectivement de remporter ces municipales.
Je pense que tout le monde va venir au fur et à mesure, va se rassembler pour gagner des villes. Et les gens vont réfléchir, vont dire non, on va mettre les égos de côté, on va tous se rassembler pour porter nos idées et puis gagner des villes.
Voilà, le bon sens, le rassemblement, sauf qu'en pratique, ces coalitions politiques, elles sont parfois impossibles. Illustration, ici même, on est à Bordeaux. Le maire sortant, proche du Premier ministre, est soutenu par le Modem, mais il va devoir affronter un candidat marcheur. Pendant 2 jours, ce campus risque surtout de mettre au jour les divisions en vue des municipales.
Jean-Rémy Baudot, ça y est, depuis hier soir minuit, tous les avions d'Aigle Azur sont cloués au sol. Aux passagers, désormais, s'ils sont bloqués, de trouver eux-mêmes leurs billets pour rentrer chez eux, avec beaucoup de difficultés en perspective pour se faire indemniser, Johanna Chabas.
Pour 3 personnes, notre billet de retour nous a coûté à peu près 270-280. Là, du coup, on a dû racheter des billets et on en a eu pour à peu près 450 en tout.
Comme Lola, bloquée au Portugal, il serait entre 40 et 50 000 à attendre un remboursement. La compagnie a publié des consignes pour être indemnisée. Un passager peut se tourner vers son agence de voyage. Mais Richard Venapoulos, président du réseau d'agences Tourcom, prévient ça ne marche que si le client a pris un forfait, par exemple en réserve. En même temps son hôtel.
Quand on vend un forfait, on est responsable totalement du voyage et de tout ce qui peut arriver. Là, les agents de voyage sont obligés de rembourser. Quand on vend un avion, juste le billet d'avion, on est mandataire. Donc ce sont des vols qui ne sont pas remboursables.
Selon lui, 90% des voyageurs qui sont passés par une agence n'ont acheté que leur billet d'avion, donc pas de remboursement possible. Les clients peuvent faire jouer l'assurance de leur carte bancaire, mais dans les faits, très peu couvrent la faillite d'une compagnie aérienne. Il reste donc la déclaration de créance et attendre la liquidation d'Aigle Azur pour espérer un dédommagement. Mais selon les professionnels du tourisme, vu les dettes de la compagnie, une indemnisation est très peu probable.
Notez qu'Air France a ajouté une dizaine de vols supplémentaires d'ici lundi à destination au départ d'Alger. Au moins 43 morts aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Bilan provisoire car les autorités redoutent que ce nombre augmente très vite. À suivre, l'hommage ce matin à Nice à Salomé, 21 ans, 100e femme tuée par son ancien petit ami.
Il est 12h39, la suite du journal sur Europe 1, Fabienne Lemoyle.
Il y a une semaine, on retrouvait le corps de Salomé dissimulé sous un tas d'ordures à Cagnes-sur-Mer. Manifestation ce matin en hommage à cette jeune femme de 21 ans, tuée par son ancien petit ami. Et alors que s'est tenu cette semaine le Grenelle des violences conjugales, Carole Davis du collectif MeToo se désole qu'il n'y ait pas plus de monde à cette manifestation.
Le temps de la colère des femmes.
Je ne comprends pas où sont toutes les personnes concernées. Nous devrons être 10 000 ici, pas 200. Parce que franchement, je ne connais pas une seule femme qui n'a pas été violentée et qui n'a pas peur des hommes. On a peur de leur violence. De qui avons-nous peur le soir quand on rentre toute seule avec nos clés, on regarde derrière nous pour voir s'il y a quelqu'un qui va nous agresser? Ce sont les mêmes personnes, parce qu'un homme violent est un homme violent. S'il commence avec des petites violences, il commence à intimider une femme, ça peut finir en fémicide. Et si on ne les arrête pas au début, c'est très possible qu'ils en finissent avec la mort d'une femme.
Un témoignage recueilli par Jacques Terrance alors qu'un autre rassemblement est prévu ce soir à 18h à Cagnes-sur-Mer. Direction maintenant Téhéran. C'est aujourd'hui que le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique arrive en Iran. Une visite alors que le gouvernement iranien a relancé son programme nucléaire avec entre autres la mise en route de centrifugeuses. C'est donc un pas de plus de Téhéran dans son désengagement de l'accord de Vienne. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes à Téhéran pour Europe 1.
Eh bien, il s'agit pour l'Iran d'utiliser des centrifugeuses plus évoluées. Ce sont des machines qui servent à enrichir l'uranium. Et pour l'instant, ils ne pouvaient utiliser que des modèles de première génération. Mais depuis ce matin, ils font tourner des modèles de quatrième et de sixième génération, beaucoup plus efficaces, ce qui va permettre à la fois d'augmenter le niveau d'enrichissement et la taille des stocks d'uranium. Fouad Izadi, professeur de relations internationales à l'université de Téhéran, considère là que l'Iran reste raisonnable en franchissant ce nouveau pas.
Ce que nous faisons ici, c'est juste de la recherche. Faire de la recherche pacifiquement, j'entends, c'est autorisé par le traité de non-prolifération. Et puis, quand vous menez des recherches, vous n'augmentez pas beaucoup votre stock d'uranium, car vous pouvez recycler l'uranium qui a déjà servi et mener d'autres recherches. C'est pour ça que j'estime que ça ne doit pas trop inquiéter les autres pays.
Il estime qu'un plus grand pas serait franchi si l'enrichissement de l'uranium était porté de 4 à 20%. C'est encore loin d'une qualité militaire, mais cela enverrait un message plus sérieux à la communauté internationale, car l'Iran serait alors en mesure de fabriquer une arme nucléaire en à peine quelques mois.
Jean-Sébastien Soldaini à Téhéran pour Europe 1.
Le journal des sports.
Avec Julien Froment. Bonjour Julien.
Bonjour Fabienne.
Ça y est, l'équipe de France rechausse les crampons. Elle reçoit l'Albanie ce soir au Stade de France.
Ouais, exactement. Cinquième journée des éliminatoires de l'Euro 2020 et les Bleus en rang serré. Réaction attendue après la défaite contre la Turquie en juin dernier. Des Bleus privés de Pogba, Kanté, Mbappé, Laporte ou encore Dembélé. Ça fait beaucoup, mais il en faut plus pour inquiéter le sélectionneur Didier Deschamps.
J'ai pas de crainte. On l'a préparé et on va continuer de le préparer aujourd'hui par rapport aux joueurs qui sont disponibles. Certes, il y a beaucoup de joueurs absents, donc dont certains des titulaires en puissance. J'ai d'autres joueurs, pas forcément avec le même profil, mais voilà, il n'y a pas d'inconnu pour la grande majorité du groupe.
Et Didier Deschamps qui répondait à Cyril de la Morinerie, France-Albanie à suivre ce soir sur Europe 1, 20h-23h, autour de Lionel Rousseau et de notre consultant Alain Roche.
Et puis on va retenir deux autres résultats dans les matchs éliminatoires de l'Euro 2020. C'est la belle victoire des Pays-Bas en Allemagne 4-2 et le réveil de la Croatie en Slovaquie 4-0. Et puis Julien, dans le reste de l'actualité football, c'est le week-end des retours.
Oui, il a rejoué, il a marqué. Alors certes, il n'a pas gagné, mais c'est déjà pas mal. Ça faisait 4 mois qu'on n'avait pas vu Neymar avec des crampons. Voilà, exactement. Et l'attaquant vient du PSG a disputé l'intégralité du match amical entre le Brésil et la Colombie. Un but, une passe décisive et de bonnes sensations. Neymar qui devrait rejouer cette fois-ci avec le PSG le 14 septembre au Parc des Princes contre Strasbourg.
L'autre retour annoncé, Julien, mais pas sur le terrain, c'est celui de Michel Platini, l'ex numéro 10 des Bleus, a confirmé la RTS, la télévision suisse, son souhait de revenir dans le monde du football.
Oui, ce que pour rappel, Michel Platini a été suspendu 4 ans en 2015 par la justice interne de la FIFA pour un paiement controversé de 2 millions de francs suisses. Sa sanction prendra fin le 7 octobre prochain. Oui.
Les Bleus toujours, pardon, mais en basket, j'étais partie très loin de vous. Les championnats du monde et un huitième de finale qui ne dit pas son nom.
Oui, l'équipe de France invaincue lors du premier tour affronte la Lituanie donc au second tour. Une victoire et les hommes de Vincent Collet seraient qualifiés pour les quarts de finale. Grégoire Benoît, ancienne gloire du basket français, sent un frémissement. Pour lui, la bande de Rudy Gobert peut aller loin dans ce mondial.
Les Français sont bien montés en puissance. Le banc a commencé à répondre présent dans les derniers matchs de poule. Là, on franchit un cap. C'est une des équipes pas favorites, mais pour être sur le podium.
Grégoire Benoît avec Christophe Lamarre, France-Lituanie, coup d'envoi à 14h.
La troisième journée du top 14 avec 5 matchs au programme et notamment un aller champ Toulon-Lyon à 17h30 et Montpellier-La Rochelle à 20h45. C'est du rugby, bien sûr.
Oui. Et pendant ce temps-là, le 15 de France, après avoir reçu la visite du président Macron en fin de semaine, eh bien, s'envolera pour le Japon début de la Coupe du Monde le 20 septembre prochain. Et puis à noter aussi dans le reste de l'actualité sportive, du tennis, la finale ce soir de l'US Open Dames entre Serena Williams et la Canadienne Andreescu.
Merci beaucoup Julien Froment. Il nous reste à voir le temps de ce samedi et la fraîcheur qui s'installe au nord, Valérie Darmon.
Et oui Fabienne, d'ailleurs une fraîcheur accentuée par un petit vent du nord qui souffle sensiblement sur la moitié nord et les températures qui sont un peu en dessous des normales de saison avec 18 à 22 justement sur le nord de la France et 21 à 28 sur le sud avec des pointes à 31 dans l'arrière-pays méditerranéen. Vos thermomètres vont afficher par exemple 29 à Montpellier, 27 à Marseille, 24 à Mont-de-Marsan cet après-midi, 23 à Lyon seulement, 22 dans le Bordelais ainsi qu'à Angoulême et 20 degrés à Paris par exemple. 18 à Saint-Étienne enfin. Et côté ciel, une perturbation de faible activité donne un petit peu de pluie toujours sur les reliefs de l'Est, la Bourgogne et la Franche-Comté. Des averses dispersées plus fréquentes en direction de la Lorraine et des Ardennes. Dans l'Ouest, jusqu'au centre et bassin parisien, le ciel hésite encore depuis ce matin entre nuages et éclaircies. Et le soleil est plus généreux dans le Sud-Est et Sud-Aquitaine avec la persistance du Mistral et de la Tramontane qui souffle à 70 km/h en rafale.
Merci beaucoup Valérie Darmon. À suivre, comment lutter contre les violences conjugales? Faut-il inscrire le terme féminicide dans le code pénal? Peut-on juger certains crimes sans jurer? Autant de sujets qui interpellent forcément mon invité, Maître Henri Leclerc, avocat et président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Il est avec moi dans un instant.
Soyez les bienvenus sur Europe 1. Il est midi 48. Le journal de la mi-journée se poursuit à présent avec le témoin de la semaine, Fabienne Lemoyle.
Et si les jurés populaires, c'était bientôt fini? Depuis cette semaine, on expérimente des cours criminels avec uniquement des juges professionnels. pour juger plus vite, mais avec le risque de déconnecter les Français de leur justice. Une justice à qui on demande aussi de faire plus pour lutter contre les violences conjugales. Autant de sujets qui interpellent forcément mon invité, Ténor du Barreau, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Bonjour Maître Henri Leclerc.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en studio ce midi à Europe 1. Vous qui plaidez devant les cours d'assises depuis plus de 60 ans maintenant. Une première question déjà sur ce qui a été le temps fort de la semaine, ce Grenelle des violences conjugales. Comment vous regardez ce nouvel arsenal judiciaire qu'on nous annonce? Ces chambres d'urgence pour accélérer les procédures, des procureurs référents, c'est la bonne réponse pour sanctionner des conjoints violents?
Je pense que presque tout le monde en tout cas sera d'accord sur l'horreur de ces faits. Les remèdes à apporter... Bien sûr, on dit la répression. C'est pas cette idée extraordinaire qu'il suffirait de punir plus fort et plus vite pour éviter le meurtre. Malheureusement, mon expérience montre que ce n'est pas vrai. Je trouve que le numéro d'urgence qui a été mis en place, des choses comme ça, sont très importantes. Je ne suis pas certain que la répression fasse reculer les choses. Même s'il faut la faire pour des raisons symboliques, bien sûr, c'est évident.
Justement, quand les associations parlent de féminicide, est-ce qu'il faut l'intégrer dans le code pénal, ce terme?
Non.
Pourquoi?
Parce que je pense que c'est un homicide comme les autres. Moi, il se trouve que dans ma vie, j'ai défendu plusieurs fois des hommes qui avaient tué leur femme. Mais curieusement, je faisais le recensement il y a 2-3 jours, j'ai défendu plus de femmes qui ont tué leur mari que de maris qui ont tué leur femme. Alors... Et il y a les cas où les femmes ont tué leur mari parce qu'elles étaient l'objet de violences, et c'est tout ce débat qu'on a eu au moment de l'affaire Sauvage, etc. Mais il y a des cas où ces meurtres étaient des meurtres, je dirais, pour des raisons passionnelles, pour des raisons diverses, et des raisons de mauvaise humeur, je dirais, d'affrontements conjugaux. Et je pense que cette idée de dire que le meurtre de la femme devrait avoir un nom spécial, vous savez... Autrefois, il y avait par exemple l'infanticide. Ça n'existe plus aujourd'hui. On parle de l'homicide des enfants, c'est tout. Bon, on parlera de l'homicide du conjoint et qu'il y a un certain nombre de meurtres. Mais vous savez, il y a aussi des enfants battus. Hein, bon. Et je crois que ce n'est pas en créant un terme qu'on résoudra la question.
Il n'y a pas de vide juridique pour vous?
Non, il n'y a pas de vide juridique de ce côté-là. Il y a des circonstances aggravantes du meurtre sur conjoint. Alors... Ça me paraît être une astuce qui ne change pas grand-chose. Vous savez, quand on a un problème aussi grave, il faut s'attaquer au fait que ce sont des comportements qui sont intolérables. Le fait pour un homme de battre sa femme, parce qu'on parle de ceux qui les ont tués, mais moi je pense à toutes ces femmes battues, que moi j'en ai vu un certain nombre dans mon cabinet, ces femmes battues qui n'osent pas. Les problèmes sont affreux, vous avez des enfants par exemple, elles disent « mais mes enfants aiment leur père ». Pourquoi priverais-je mes enfants de leur père? Il me bat, il faut trouver une solution. Alors, pas forcément avec la répression, mais au moins avec des moyens qui sont des moyens de transaction, des moyens de médiation, des moyens d'écoute, d'écoute psychologique. Alors, ça existe en partie, mais je crois qu'il faut améliorer cela. Je ne crois pas que la répression résoudra le problème, mais ça a au moins l'intérêt d'attirer l'attention sur un comportement épouvantable.
On entend, Maître Henri Leclerc, que vous n'aimez pas vraiment qu'on crée des juridictions d'exception à un nouvel arsenal judiciaire. C'est pour cela que vous ne croyez pas non plus à ces nouvelles cours criminelles qu'on a commencé à expérimenter à Caen cette semaine. Je vais juste rappeler, c'est pour juger les crimes passibles d'une peine jusqu'à 20 ans, plus citoyens jurés que des juges professionnels.
Alors, deux choses que je veux dire. Bon, j'ai été très hostile à la création de ces cours criminels qui ne sont effectivement qu'une expérience limitée. On va voir comment ça se passe. Ce que je crois, c'est que l'institution des jurés est une institution concomitante à la République, à la démocratie.
C'est pas juste la frustration de l'avocat de ne pas plaider devant des citoyens.
Non, ce n'est pas de ne pas plaider devant des jurés, d'être devant des citoyens. Depuis le début, ce qui a eu d'extraordinaire, c'est qu'autrefois, la justice était secrète. On obtenait des preuves en torturant les gens. La justice était rendue sur des raisons absurdes. Là, on a dit non. La révolution, le débat est formidable à la législative en 1791. Ils disent, bon, pour juger si quelqu'un a fait quelque chose, il y a besoin de la raison, il y a besoin du bon sens, il y a besoin de la conviction avec des éléments qui seront tous examinés contradictoirement à l'audience. C'est la grande idée, juré. C'est vrai que la magistrature a toujours été hostile à cela, dans l'histoire, et que les gouvernements forts ont essayé de la supprimer.
Napoléon.
Et il n'a pas réussi. Je pense surtout que les raisons économiques, les raisons d'accélération des procédures... Une procédure d'assises, ça dure longtemps, parce qu'il faut expliquer aux jurés tout.
C'est important aussi, Maître Henri Leclerc, parce que vous avez peur que ça déconnecte définitivement le citoyen, le français, de sa justice.
Alors, on dit que ça va accélérer les choses, je ne suis pas du tout sûr. On ne fera plus venir les témoins, on va donner le dossier aux magistrats qui vont statuer. Ils auront tous le dossier. Ils vont avoir une idée avant que le procès ne commence. Moi, j'étais hostile à cela, j'y suis toujours, mais après tout, c'est une expérience, menons-la. Et puis voyons ce que donnera cette expérience.
Une dernière question, Maître Henri Leclerc, sur un sujet qui vous tient à cœur. Les enfants de parents djihadistes français partis en zone irako-syrienne. Vous êtes monté au créneau il y a quelques mois pour que ces enfants soient rapatriés en France. On en est où ?
Ben, si ça se voit moins, je suis toujours au créneau.
Il y a 12 enfants qui sont rentrés.
Il y a 12 enfants qui sont rentrés, qui étaient des orphelins totaux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus ni père ni mère. Mais ils sont rentrés, c'était bien la peur, ils peuvent rentrer. On s'est aperçu d'ailleurs quel était leur état de santé effrayant. Bon.
Le gouvernement dit que ces situations sont gérées au cas par cas.
Oui, mais enfin, au cas par cas, on n'en voit pas beaucoup des cas. Et la question, c'est que justement, ce n'est pas un problème de cas par cas. C'est un problème de principe. Nous avons des enfants français, il y en a 200, plus même, qui sont dans une situation très difficile. L'hiver arrive, ils sont sous la tente. Ça a été déjà affreux l'été, et ça va être affreux l'hiver encore plus. Et nous n'obtiendrons rien. Pour l'instant, c'est des organismes internationaux. En France, c'est la Commission nationale consultative des droits de l'homme qui va prendre un avis, on verra bien. Mais à l'étranger, nous avons le comité de la Convention internationale des droits de l'enfant, le comité des droits de l'homme de l'ONU, la Cour européenne des droits de l'homme. Tout le monde est en train de regarder ça. Moi, je suis convaincu que la France va être condamnée pour laisser mourir des enfants, pour laisser traiter dans des conditions pareilles les enfants qui sont français. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas que M. Le Drian, qui est un homme tout à fait estimable, disent qu'il ne peut rien faire. C'est
qu'est-ce que vous lui demandez ?
Mais on n'arrête pas de lui demander. Mais je me demande si M. Le Drian ne peut rien faire parce que M. Macron ne veut rien faire. Enfin, il y a là un véritable problème, que M. Macron prenne position. Ils disent, mais non, ce n'est pas la question, nous ne pouvons pas, etc. Si les femmes sont rapatriées en France, nous savons qu'elles iront toutes en prison. La justice française va s'occuper d'elles. Nous savons que les enfants... Tout est très bien organisé. L'aide sociale à l'enfance, en particulier celle de Bobigny, les familles d'accueil, car on ne les remettra pas tout de suite dans leur famille. Tout est parfaitement organisé pour que ça se passe dans de bonnes conditions. Mais enfin, des gosses de 4 ans qui sont en train de crever, ils ne sont pas responsables des fautes de leurs parents, et que la France les laisse, me paraît insupportable. Et donc, je ne suis pas prêt de quitter ce créneau, sauf quand ils rentreront.
Merci beaucoup Henri Leclerc, je rappelle président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, d'avoir été avec nous ce midi. Et on voit que votre capacité d'indignation reste intacte.
Ah, j'espère bien.
Merci à vous. Et puis notez justement que Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos demain à 10h. Vous le savez, à 13h on prolonge la tranche d'information avec Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Grosse séquence sur le Grenelle des violences conjugales avec un témoignage très fort, celui de Laura. On verra aussi avec Ève Roger si les mesures annoncées peuvent faire bouger les choses. Justement, on en parlait à l'instant avec Maître Henri Leclerc. Et puis plus insolite, nous irons en plein cœur de la cité des Tarterets où l'on fait des fouilles archéologiques au pied des tours.
À tout de suite, Fabienne. Bon week-end, il est 13h. À suivre, Tout Terrain, l'émission Grand Reportage d'Europe 1. Auparavant, on refait un point sur les grands titres de l'info avec vous, Fabienne Lemoyle.
Et le débat qui sème la zizanie dans les campagnes entre riverains et agriculteurs et qui embarrasse bien les maires, le débat sur les arrêtés anti-pesticides et cette question, à quelle distance des habitations peut-on pulvériser ces produits ? 150 mètres comme l'avait décidé un maire breton ou à 10 mètres comme le préconise l'Agence nationale de sécurité sanitaire ? Eh bien, c'est sur cette base des recommandations de l'ANSES qu'une grande consultation va être lancée à partir de lundi. À Bordeaux, La République En Marche lance son campus des territoires, des universités d'été qui ne disent pas leur nom et où l'on parle déjà beaucoup des futures élections municipales. Les avions d'Aigle Azur cloués au sol avec de nombreux passagers obligés de trouver une solution sur les destinations du Portugal, de l'Algérie et du Mali et près de 40 000 passagers qui se demandent comment ils vont être indemnisés. Et notez qu'Air France a ajouté une dizaine de vols supplémentaires d'ici lundi à destination et au départ d'Alger. Au moins 43 morts aux Bahamas après le passage de l'ouragan Dorian. Un bilan provisoire, disent les autorités, qui redoutent que ce nombre n'augmente très vite. À Nice, 200 personnes rassemblées ce matin en hommage à Salomé. Cette jeune femme de 21 ans retrouvée morte à Cagnes-sur-Mer, c'était samedi dernier. Depuis, son ancien petit ami a été mis en examen. Nouvel hommage ce soir à Cagnes-sur-Mer à 18h. Les sports avec un mot de football et les Bleus qui ont rendez-vous au Stade de France face à l'Albanie en match éliminatoire pour la qualification de l'Euro 2020. Coup d'envoi à 20h45. Un match à suivre en intégralité ce soir sur Europe 1. We'll be right back.